La bande du jeudi. La bande du jeudi.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4.
Ont été jetés, les cales, les patins, et tout le monde apprécie ce moment absolument incroyable.
Champion suisse 2016 de Ligue nationale B.
Merci.
Le HC Alger.
Ouais. Quel truc de fou. Bravo, bravo. C'est fantastique.
La bande du jeudi.
Voilà, le cadre est posé. Bonsoir, bienvenue dans cette bande du jeudi. Elle est spéciale, vous l'aurez compris. On se détache aujourd'hui de l'actualité du HC Ajoie pour se replonger dans une période historique du club. Il y a 10 ans, le 1er avril 2016, l'équipe jurassienne était sacrée championne de Suisse de Ligue B. On vous propose aujourd'hui des séquences souvenirs, émotions, aussi des moments qu'on va partager avec plusieurs acteurs de cette folle épopée. À commencer par vous, messieurs. Salut Steven Barras. Salut Joe Howard.
Salut.
Bonsoir.
Bienvenue et merci d'être avec nous aujourd'hui pour partager ces moments. L'équipe s'est étoffée. Salut Rafi, salut Yann, salut Cyprien.
Salut.
Et bonjour tout le monde, la chair de poule là. Hein.
Bonsoir tout le monde.
On a commencé sur les chapeaux de roue. Hein. Steven, Joe, vous êtes prêts à partager, à vous replonger dans ces moments d'histoire?
Bien évidemment, bien sûr. C'est sûr que ça fait bizarre, puis ça fait en même temps ça paraît loin, puis c'est pas si loin, je dirais. Ça fait quand même déjà 10 ans maintenant. C'était des souvenirs mémorables, je dirais. On a vécu un moment exceptionnel.
Ouais, vraiment, c'est la chair de poule, comme disait Rafi juste avant. C'est vraiment ça que ça fait. Ça remonte beaucoup de souvenirs, même si de temps en temps on a l'occasion d'en reparler à gauche, à droite. Mais là, c'est les 10 ans. Déjà, on se dit comment c'est possible déjà 10 ans. Ça, c'est vraiment la première chose. Puis après, ben voilà, des super souvenirs.
La bande du jeudi.
Bah donc on va revenir sur ces notamment play-offs, hein, qui étaient play-offs teintés d'histoire pour le coup, hein, puisqu'on a été sacré champion de Suisse de Ligue B après ça. Et c'est toi, Cyprien, qui va retracer tout ce périple des mois de mars et avril donc 2016.
Je pense que l'émission pourrait presque durer 2 heures, hein, si on prend tout dans les détails et qu'on se raconte 15 anecdotes. On va essayer tous ensemble de prendre un peu série par série, avec quelques anecdotes par série évidemment. Et peut-être que la première quand même histoire de ces playoffs, c'est quand même la tienne, Steven, où tu annonces la fin de ta carrière avant le démarrage de ces playoffs et tu deviens un petit peu quelque part la mascotte de tout ce printemps 2016. Tu te souviens pourquoi tu avais choisi d'annoncer assez tôt la fin de la carrière?
J'ai pris la décision, c'était au mois de décembre. Je pense que l'annonce a suivi juste après. Je n'avais pas envie de garder ça spécialement pour moi. Je ne l'ai pas non plus fait pour créer quelque chose de spécial durant cette année-là. Mais finalement, en fait, ce qui s'est un petit peu passé, c'est que ça a permis, moi, ça m'a permis de faire un peu, de passer le cap, de se dire, voilà, on va arrêter après toutes ces années de hockey, puis de le faire progressivement, plutôt que d'annoncer ça le jour avant le dernier match, et puis de se retrouver en face de l'info. Donc voilà, moi, c'était un peu ça le but. Et puis, après, il y a eu plein de choses. Il y a eu, les tifos, il y a eu vraiment beaucoup de choses qui ont fait que ça a créé cette émulsion. Puis après, au début des séries de playoffs, en plus, toute l'équipe s'est prêtée au jeu de ça, sans que je le sache à l'avance. Donc c'était... Il y a vraiment quelque chose qui s'est mis en place là autour. Ça a créé un petit truc en plus durant ces séries.
Tu parlais justement du tifo et puis de toutes ces choses qui sont créées autour. Joe, il y a eu ce fameux 10 sur tous les casques dans cette série de ce printemps. Comment c'était venu cette histoire-là?
Alors ça, je ne sais plus si c'était le moment où c'était fait casser le nez par un certain Bagnou.
Non, c'était au début du playoff. Dès le premier match, il y a le 10.
Ça
en tout cas, selon les photos du QJ. Hein. Moi, je me base là-dessus. Moi.
J'étais capitaine et Steven, c'était pas seulement un collègue de travail, c'en était un, mais c'était aussi un ami avec qui j'avais passé 13 ans dans le vestiaire avec lui. Et lui qui arrête sa carrière, on se devait quand même de faire quelque chose pour lui. Donc on s'était dit, on va mettre ce numéro 10, puis on va essayer une fois de passer ce cap déjà de quart de finale, qui était en plus un derby contre Chaux-de-Fonds, une équipe qui était supérieure à nous à l'époque. Et c'était une belle façon de, bah, de le remercier et de le féliciter pour son parcours hockeystique.
Effectivement, quart de finale du côté de Chaudfond. Alors, le QG avait superbement lancé la série en mettant les 10 photos de Steven Barras année après année, la tête à Steven, les cheveux toujours un peu plus courts ou un peu plus longs, mais jamais très longs. Hein.
Non, jamais très longs, puis de moins en moins aussi.
Et puis ensuite, donc, on part du côté de Chaudfond. Et du côté de Chaudfond, il y a eu un événement qui était assez sympa, en fait. C'est que vous aviez perdu le premier match et ensuite, vous aviez été gagné le troisième du côté de Chaudfond. Et avant ce déplacement-là, il semble qu'il s'est passé quelque chose dans le car. Je ne sais pas si vous vous souvenez, qui c'est qui avait conduit le car à ce moment-là? Des gros yeux.
Moi, je sais.
Oui, Yann?
C'est Mikou.
Ah, oh là là, quelle mémoire, Yann Voya.
C'est juste.
Ouais, c'est une question du quiz après.
Ça fait une de moins.
Ça ferait une de moins parce qu'écoutez, le Mikou, on l'a retrouvé.
J'ai conduit à Chaudfond, l'entraîneur n'avait jamais gagné. Il m'a dit, Mikou, tu veux me porter chance? Tu gagnes là-haut, tu te comprends? Alors, dans le coup, j'ai conduit à la roche, j'ai chanté « Baissez-vous, on passe sur un pont !» Il criait, hein? Alors, Chiram était fou, tu comprends, il m'a dit. À l'entrée de Chaudfond, je criais « Nous n'avons qu'une idée en tête, gagner, gagner, c'est le problème de toute la semaine, gagner, gagner !» T'es d'accord avec moi? C'était formidable. Après le match, on a rigolé, on a chanté jusqu'ici.
Steven, Joe, vous souvenez tout ça?
C'est énorme. Ben, là, du coup, oui. Mais c'est vrai que dans l'amalgame de tous les matchs de ces séries, j'ai zappé l'info. Bon, à ma décharge, j'ai peut-être fait une commotion contre le Ten. Donc, il y a peut-être des blancs sur la première série contre Chaudfond qui me paraît très flou. Donc voilà. Mais en l'entendant, ça rappelle.
En l'entendant, ça rappelle. Ça rappelle surtout arriver à Port-en-Truy. C'est le moment où c'est qu'il avait arrêté de chanter. Donc, il y a heureusement plus de route. Je me souviens bien de ce moment-là, par contre.
Ça en disait aussi un peu long sur l'ambiance qu'il y avait dans cette équipe, non?
Oui, à cette époque-là, on n'était pas forcément les plus talentueux ou les meilleurs, mais on jouait vraiment l'un pour l'autre. Et puis, on avait une ambiance d'équipe qui était vraiment exceptionnelle, quoi, je veux dire. C'était quelque chose. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on avait réussi à cette époque-là à gagner cette coupe. Ça venait du noyau du vestiaire, quoi.
Parce qu'à ce moment-là, quand vous entamiez ces quarts de finale face à la Chaudfond, c'était quoi l'objectif, l'état d'esprit? C'était pas forcément d'aller chercher le titre. Vous n'étiez pas les favoris face à la Chaudfond. Hein. Vous aviez terminé derrière eux au classement. C'était d'aller franchir étape après étape, ou bien vous aviez quand même envie de faire ça pour Steven, pour marquer ce moment-là?
Moi, ce que je me souviens, c'est que c'était assez serré cette année-là. C'est-à-dire qu'on avait peut-être fini Xème au classement, mais on avait un championnat qui était assez serré. Donc quand on attaque la série contre Chaudfond, il n'y a pas de favori ou de pas favori contre Chaudfond. Ça c'est clair. Je pense que le seul moment des séries où on arrive en se disant ce coup-ci ça va être dur, c'est contre Rappi. Je pense que Holton et Chaudfond, on se dit vraiment tout le long, ouais, c'est faisable. Donc il n'y a pas un moment donné où on est parti en bas. Mais on n'a pas de plan quand on commence des playoffs. Hein. Les objectifs, les annonces, on veut finir premier, on veut finir troisième, on veut gagner le titre. Ça ne marche pas comme ça. Par contre, cette année-là, il y a quelque chose qui s'est créé dans le vestiaire. Parce qu'il faut se replacer un petit peu. Avant ces années-là, on a eu quelques années difficiles avec le HCA. On avait peut-être moins de fun. On avait perdu Roi des Marais, avec qui on a eu des années où on avait pu se battre pour vraiment contre des grosses équipes, des grosses séries. Puis après, on n'avait plus réussi à recréer ça dans le vestiaire. Et puis là, tout à coup, bah, avec l'arrivée de Johnny et puis de Phil, qui ont amené beaucoup, aussi des aides qui sont venues de l'extérieur en cours de saison. Bah, Joe qui était capitaine, qui tirait en avant. Je veux dire, on avait de nouveau recréé un groupe qui était hyper positif. Puis du coup, je pense que ça nous a beaucoup aidé dans ces playoffs-là.
Alors ce propos-là, il va parfaitement avec celui qu'on va entendre parce que Joe Hazen et Phil DeVos, on les avait aussi invités pour cette émission. On est à 2 jours des play-outs, donc on les a laissés tranquillement se concentrer sur la mission Ambry. Par contre, ils nous ont accordé une interview pour parler justement aussi de tout ça. Et ils reviennent justement sur cet esprit qu'il y avait dans l'équipe à ce moment-là.
Oui, vraiment, c'était la famille, c'était vraiment... On était des gamins, on était une équipe jeune, puis on avait beaucoup pris de licence B aussi, puis tout le monde s'est bien adapté, ça a cliqué assez rapidement.
Oui, exactement, Gary faisait un super job aussi de s'assurer qu'on venait à la patinoire, on avait toujours du plaisir. Quand on se remet mort, tout ça, c'est vraiment des beaux moments, puis ça nous a aidé aussi, ben juste à Johnny puis moi, puis tous ces gars-là, de poursuivre après, de regagner, puis d'avoir des liens serrés pour continuer à faire progresser l'organisation.
Alors, il y avait les gamins, comme ils disent, mais il y avait aussi les papas. Et ça, c'est Gauthier Desclou, le gardien de l'époque, qui nous l'a raconté.
C'était des papas, autant l'un que l'autre, puis littéralement, quoi. C'était des papas dans le sens où c'était les papas de l'équipe, c'était des papas, ils avaient des enfants. On avait beaucoup de jeunes joueurs et c'était tellement important pour nous d'avoir ces gars-là. Puis Steven, lui, il était en feu de Dieu. Tout ce qui touchait devenait de l'or.
Il y avait ce côté papa ?
Ouais, je dirais que c'était un rôle qui se faisait automatiquement. Pour ma part, c'était pas non plus une contrainte. Mais j'ai pas eu l'impression de les avoir bercés non plus, c'est toute cette équipe, quoi. Je veux dire, c'était, comme je dis, c'était vraiment une alchimie qu'on avait entre les plus anciens et les plus jeunes. Moi, j'avais pas l'impression de faire partir des papas, en tout cas à cette époque-là, hein. Donc, ouais, moi, mon sentiment, c'est que ça s'est vraiment créé tous ensemble, si on veut.
Ouais, vraiment. Après, le sentiment de papa, je pense que c'est plutôt un sentiment de leadership. Je pense qu'il y a, dans des vestiaires, il y a différents cadres d'équipe. Et puis évidemment qu'il y en a qui prennent plus la parole que d'autres, dès qu'ils recadrent aux entraînements, quand on a des jeunes, il y a beaucoup de jeunes dans l'équipe, donc des fois il faut recadrer dans la qualité des entraînements, puis c'est pas toujours au coach d'aller et puis de dire attention on fait ci, des fois il y a des joueurs qui peuvent dire attends, les passes mêlées dans la canne, mêlées pas 10 mètres derrière ou 10 mètres devant, on joue comme on s'entraîne, donc évidemment que nous on recadrait quand même de temps en temps sur la glace aussi, mais pas plus que ça, puis après... Mais après, on a vraiment eu un groupe. Toutes les pièces qui sont arrivées sont mises dans un puzzle. Vraiment, tout a bien joué. Ben, on parle de Gauthier Desclou là. Il nous a fait une série. C'était une dinguerie juste. Toutes ces séries de play-offs. Donc voilà, tout se met ensemble.
On parlait de joie, notamment les Québécois que j'ai rencontrés disaient on avait le plaisir de se retrouver ensemble à l'entraînement, en match. Cette joie communicative, cette alchimie entre vous, elle se vérifiait aussi hors glace peut-être. Il y avait une petite bulle spéciale cette année-là.
Oui, je dirais surtout particulièrement quand on avait des déplacements à Viège. On faisait beaucoup de team building dans le car en rentrant. C'est un peu la spécialité de l'équipe, je dois dire. Et puis ça fonctionnait, quoi. Je veux dire, c'était le mélange parfait dans la saison parfaite. Moi, j'ai encore joué plusieurs années après ça. Et j'ai vu quand même la mentalité différente des plus jeunes qui arrivaient. Et puis la façon de leur parler qui a évolué d'une manière, quoi.
Alors, cette bande de potes élimine Chaudfond en 6 matchs, direction Holton, le Kleinholz. Premier match, défaite au tir au but, et un titre absolument fantastique qui, 10 ans après, fait toujours son effet dans le QJ. Holton par un trou de souris, Rafik Umjan.
Ah, magnifique. Ouais, j'ai le souvenir que ça avait été une longue série de pénalties, que ça avait été vraiment une défaite vraiment frustrante et plus que ça, énervante, c'est ça ? Vas-y.
6 à 5 au final, mais il y avait eu 13-14 pénalties. De Vos était allé 3 fois de suite notamment, je ne sais pas si vous vous souvenez.
Pénalty, ouais. Moi, même après,
il est marqué à chaque fois, De Vos, c'est ça ?
Sauf le dernier, il rate le dernier, il en marque 3 et il rate le dernier.
0.
Et donc ça fait 1-0 pour Holton, mais surtout cette série, elle avait fait changer la tête à certains joueurs. Vous souvenez, vous deux ? Non, apparemment pas. En tout cas, les deux Québécois, ils s'en souviennent. Écoutez.
Ah oui, c'est vrai, lui, c'était teint la barbe, hein, je me trompe pas.
Ouais. Exactement, exactement, une belle barbe blonde.
Pourquoi, Phil?
C'est une excellente question, je me souviens même plus, mais j'étais pas le seul, il me semble, Gauthier Desclou, rouillé.
J'ai aussi l'image de Tuffet, Timothée Tuffet aussi avait la barbe.
Tuffet, voilà, et puis, habituellement, c'était les cheveux, mais les cheveux, ça dure longtemps, tu sais, donc on s'était dit, on fait la barbe, et puis après ça, on rase, c'est fini, puis je l'avais rasé, en fait, entre la demi-finale et la finale. Habituellement, tu sais, les hockey, ils gardent la barbe des playoffs tout le long, puis là, ben, je me suis dit, on change et puis on verra ce que ça donne. Et puis je l'ai teinte après la première série, puis après la deuxième, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Donc là, je voulais pas la colorier, je me suis dit, je la rase. Et puis voilà, on a gagné. Donc.
C'est revenu là, c'est
oui,
blond.
Ça revient gentiment, ouais. Ça fait quand même 10 ans. Hein.
Ça, moi, j'ai pas fait. Hein.
Non, moi non plus.
Non, vous deux, c'était.
Non, non, vous n'avez pas fait. C'est le classique exactement. Habituel.
Par contre, bah effectivement, l'événement majeur de cette série, ça restera, on l'a déjà un tout petit peu évoqué quand même, mais c'est Bagnou. Christopher Bagnou, acte 4. Il y a 6 à 1 pour le HC Ajoie. On est vers la fin du deuxième tiers. Et Steven, tu es sur la glace. Je te laisse peut-être un peu nous raconter.
En fait, on est en train de les exécuter sur place. Hein. Ce match-là, on était injouables. On a mis des buts de dingue, des triangulations, ils étaient dans un état de frustration complet. On est au deuxième tiers, si je ne me trompe pas. Mm-hmm. 6 à 1, donc c'est violent comme score. Et puis,
score acquis à la 33e minute.
Ouais. Et puis ensuite, ce qui se passe, c'est que moi, je suis devant la cage, j'emmerde, normal, quoi. On se bat pour notre position, on a le contrôle du puck dans la zone, normal. Et puis, je perds l'équilibre un peu en avant, puis en me relevant, il met un cross-check... directement qui prend sous la, en fait, entre la demi-visière et le nez directement. Moi, je tombe KO par terre parce que ça a tapé très fort. Manu, c'était pas un petit joueur. Puis ensuite, fin de match pour moi en tout cas. Et par contre, j'ai rejoué la série. Hein.
Oui.
J'ai pu reprendre la série. Je vais vous passer l'historique médical de tout ça, peut-être. Je ne sais pas si c'est vraiment intéressant. Mais disons que ça avait été un rude coup.
Comment ça avait été perçu après dans le vestiaire à la fin de ce match au,
Bah, rien qu'en y repensant, moi, je trouve ce qu'on a lu, ce qui est arrivé, c'est pas un geste qu'on peut tolérer sur une patinoire. J'espérais que ce soit en play-off ou à n'importe quel niveau de jeu, c'est pas quelque chose qui est, pour ma part, acceptable. Après, je ne sais plus s'il avait été suspendu plusieurs matchs ou pas.
Il avait eu 5 matchs.
Il y a eu seulement 5 matchs.
Ouais.
Bon, bah, c'est déjà pas assez. Mais c'est vrai que ça avait donné un coup de boost aussi à l'équipe parce qu'on voulait, bah, on voulait défendre Steven. Et puis, la meilleure manière pour régater, n'était pas une équipe très grosse physiquement, donc c'était de passer la série, ce qu'on a pu faire.
Oui, vous, le dimanche, vous perdez du côté d'Holton 4-2. Entre temps, ils avaient changé d'entraîneur hein,
oui,
après ce match-là.
Exactement,
eux.
Ouais.
Vous perdez là-bas, puis ensuite vous gagnez 3-0 l'acte 6 avec un but de Steven Barras, le 1-0. Il s'en souvient pas, peut-être encore un peu la commotion à l'époque. Le 1-0 de Barras pour un 3-0 final et le HC Ajoie est en finale. Toute la patinoire le chante. Et sur RFJ, on arrive ce soir-là à retrouver la voix de quelqu'un. Je vous laisse reconnaître.
J'ai beaucoup d'émotions, j'ai plus de jambes. Je félicite tout le monde et j'espère qu'on ira un petit bout avec ces rapous.
Avec ces rapous. On les appelle rapis normalement.
Ah bon, ben c'est rapis si tu veux ou rapous. Pour moi, on verra bien.
Steven ?
Ah ouais, bah ça c'était une des choses magiques, c'était qu'il était encore là à ce moment-là, et puis ça a vraiment amené quelque chose en plus parce que...
Donc on parle de Charlie Cobat, on le remet quand même pour si jamais les auditeurs ne l'ont pas reconnu.
Je ne l'ai pas fait au début, mais ouais, effectivement, c'était... et voilà les photos que j'ai avec lui à ce moment-là, que l'équipe a, que le club a finalement, puisque le club, ben voilà, il en fait partie à jamais, donc... voilà, ça c'était juste beau qu'il ait pu avoir ça, parce que, ben, en tout cas, moi, depuis que j'avais commencé, on n'avait pas connu de moment comme ça avec le HCA. Il en avait connu, lui, par le passé, bien des belles années, des belles promotions. Le HCA existe depuis très longtemps, ça ne faut pas l'oublier. 2016, c'était super, il y a eu des choses fantastiques avant, il y en a eu des fantastiques après aussi. Mais voilà, là, ça faisait longtemps qu'on n'avait quand même rien eu. Hein. Moi, 17 ans, j'ai joué avec Ajoie, on n'a rien eu. Une promotion la première année où j'y jouais, mais après c'était du hockey de remplissage, j'ai envie de dire, quelques belles séries, mais qui se finissaient jamais bien finalement pour nous, donc on était tout le temps un peu dans le crève-cœur, on est d'accord.
Mais là on est en finale cette fois-ci, Joe, capitaine, justement d'un club qui n'a pas l'habitude de jouer une finale à ce moment-là, si on prend l'échelle du 21e siècle, comment est-ce qu'on l'avait préparé cette finale ?
Maintenant que ça fait 10 ans, je peux le dire quand même un petit peu.
Ah.
Non, je dois dire qu'on a fêté la demi-finale tellement correctement qu'on arrive au premier match, c'était un peu compliqué, si je me souviens bien, on avait pris 6-1.
6-2.
6-2, oui. Mmh. Tu te rappelles, Steven ? Puis là encore, on était toute l'équipe. Et puis après ce match-là, il y avait Steven qui avait fait une intervention dans le vestiaire, si je me souviens bien, en mentionnant qu'une finale, ça ne se jouait pas, ça se gagnait. Et puis on était rentré en quart, évidemment, c'était un mardi, si je ne me trompe pas. On avait fait de nouveau un petit team building pour se remettre un petit peu ensemble. Et puis on était reparti, puis on a gagné le match d'après. Donc c'était. Ouais, c'est vraiment des moments particuliers, surtout comme dit Steven. C'est des choses auxquelles on s'attendait déjà pas en début de saison. On n'était pas préparé, mais on avait un tel soutien de la part du comité, du staff, du public et de tout le monde dans la région. C'était quelque chose de. C'était incroyable, quoi.
Ouais, puis il faut se rendre compte, tout l'historique du HCA depuis le début des années 2000, Steven l'a dit, la finale, c'était comme un plafond de verre, c'était quelque chose qui semblait tellement inaccessible durant toutes ces années pour une équipe qui de temps en temps atteignait une demi-finale, et puis il y avait quand même des gros mastodontes à l'époque, hein, les Lausanne, les Bienne, les Langnau et compagnie, et là, rien que le fait d'être en finale, c'était déjà un gros exploit, et ce qui arrivait derrière, évidemment, va dépasser tout ça, quoi.
Et puis quelque part, on jouait contre Rapperswil, qui était le grand favori de la saison. Eux, ils avaient l'ambition de monter en National League. Donc quelque part, finalement, Ajoie avait déjà réussi sa saison et puis était l'outsider parfait pour cette finale.
Est-ce qu'à un moment donné, pour reprendre un peu la question qu'a posée Rafi tout à l'heure, on prend conscience, à quel moment on prend conscience qu'on peut gagner le titre ?
Alors pas après le premier match, parce qu'on était reparti de là-bas en se disant « Ouais, ça va être compliqué ». Mais je pense que dès qu'on les a battus une fois, il y a toute la mentalité qui change en fait. Parce que quand on bat des équipes comme ça, qui sont construites pour monter, ça avait déjà arrivé par le passé dans d'autres séries, que ce soit bien Lausanne ou comme ça, où on a pu mener dans des séries, on sent tout de suite la frustration chez les joueurs, parce que pour eux, c'est quelque chose d'acquis de battre à joie. On n'est pas censé être là, donc ça devrait aller facilement. D'un coup, ping, quoi, ils arrivent à un match au Weibe, ils se prennent 4000 personnes en face, endroit injouable, on les bat, puis ils se disent, c'est peut-être pas être si simple que ça. Puis tout de suite, on voit la frustration. Puis dans leur cas, eux, la frustration, elle a fait que d'augmenter tout au long de la série, puis de manière importante. Ça en devenait presque risible le dernier match. Hein. Ils ont fait des fautes qu'on ne peut même pas imaginer dans un match 6 de play-off.
En y repensant, je pense qu'il y a quand même eu un tournant. C'est le moment où c'est qu'on a gagné le premier match chez eux. On a vu, comme dit Steven, une énorme frustration. C'était une patinoire dans laquelle on n'a pas beaucoup gagné. Hein. D'ailleurs, encore à l'heure actuelle, les années qui ont suivi, ça a toujours été très compliqué là-bas. Mais quand on a gagné le premier match là-bas, on a senti quand même un peu le vent tourner, je dirais.
Alors tes propos, Joe, vont être corroborés par les deux Québécois qui disent exactement pareil. Écoutez.
La victoire aussi qui a fait le break à Rapperswil, le match numéro 3-2-1, c'est vraiment des moments qui sont restés gravés dans ma mémoire pour ce jour. C'était 2-1 là, au match numéro 3, sans Steven d'ailleurs, qui s'était fait faire un coup extrêmement salaud contre Holton. On s'est dit, tout d'un coup, on a une chance. Mais non, mais pour se rendre déjà là, c'est qu'on y croyait. Hein? Mais comme je dis, on se projetait pas, on se faisait pas d'illusions. On a un match à la fois, mais c'est peut-être à ce moment-là, lors de l'acte 3 contre Rapperswil, qu'on s'est dit, OK, c'est entre nos mains.
Alors, vous confirmez ensuite à domicile, hein? L'acte 4, vous le gagnez, ça fait 3-1 dans la série pour Ajoie. On repart, acte 5, on part donc à Rapperswil pour être titré. On mène 3-1 dans la série, on mène 3-1 dans le match. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui égalise, je ne sais pas, vous vous souvenez, de l'égalisateur à 3-3 partout. Yann
Reto Schmutz.
Reto Schmutz, exactement, qui égalise à la 58e minute pour Rapperswil. Prolongation, et en prolongation, but.
C'est de couvert dans le dos du flair, ou à la rondelle.
Mais il y a un bug, Michel, là, quand même. Hein.
Ouais, c'est qu'on s'est un petit peu emballé dans le vide. Au final, c'est vrai que depuis la tribune, on était convaincus que ce but était valable. Vous aviez cette conviction, vous aussi. Bon, à en croire les gants qui volent et les cannes qui volent, on dira que oui.
Bien sûr. Puis après l'avoir vu au ralenti, pour moi, il y a clairement but. Hein. Donc il n'y a pas question d'annuler. Mais après, voilà, je ne vais pas épiloguer sur la qualité d'arbitre qu'on avait à l'époque et puis sur ce qui s'est passé là-bas.
C'est un immense scandale. Il y avait vraiment but. Non, mais il arrive des trucs comme ça quand on joue toutes ces années. Mais là, c'est incroyable. Ce but annulé, il va regarder en plus, il va regarder la vidéo déjà, je pense. Je me souviens de la scène, il revient, il annule le but. On était, mais évidemment, quand on passe par des émotions comme ça, c'est compliqué après de revenir dans la partie. Hein.
Alors, dans la partie, peut-être même dans la série, parce que comment vous avez vécu les jours qu'on suivit? Parce que je ne veux pas dire qu'il n'y a pas le droit à l'erreur dans l'acte 6, il y a toujours un 7, on est d'accord, mais le 7, il est à Rapi. Donc, vous saviez très bien que cet acte 6, il était vraiment hyper important. La pression, elle était comment? Je te vois sourire, Joe.
Non, mais on a refait un team building. Non, je rigole. Non, mais c'est là que je dis justement que notre esprit était quand même solide. On avait vraiment... une solidité collective qui était incroyable. Et puis de plus, on avait, comme l'a dit Steven, on avait Gauthier au but qui arrêtait tout. Et puis quand vous arrivez dans une patinoire comme elle était remplie à l'époque au Weibe pour un sixième match, on ne pouvait pas se permettre de perdre quoi que ce soit. Donc c'est là qu'on a fait le break.
Ouais, pour rebondir là-dessus, c'est évidemment le match 6, on sait que. On en a fait plein des matchs 6, notamment les anciens plutôt du vestiaire que les jeunes, mais on sait que si on passe à côté le match 7 à l'extérieur, c'est quand même compliqué. Mais après, on s'est pas mis de pression, on n'a pas dit aux jeunes, les gars, faut gagner match 6, sinon on est cuit. C'est peut-être pas du tout ça l'optique, on n'a pas du tout communiqué là-dessus. Mais au fond, nous, on le sait très bien. Et puis ça a fait aussi que finalement, tout le monde est resté assez tranquille. Donc il y a eu la grosse frustration d'après-match, évidemment, c'est un scandale, etc. Mais après, tout le monde est resté assez tranquille. Et on est revenu sur le match à Porrentruy d'après.
Je crois que toute tout le monde sait où il était dans la patinoire à ce moment-là. Yann, toi, t'étais placé où?
Moi, j'étais entre la chaise longue et le bar en Guadeloupe parce qu'on avait décidé en famille de partir. Puis, oui, j'avais raté ce match décisif à Porrentruy et puis la grosse fête qui a suivi.
Il croyait déjà en un, c'est pas clair.
Je l'ai joué avec vous avant.
C'est marrant parce qu'en 2026, on se dirait, bon, ben, il a regardé le match depuis la Guadeloupe. Mais en 2016, comment t'avais suivi le truc, toi?
Ben, honnêtement, j'ai essayé de me rappeler, en préparant cette émission, justement. Mais je sais que j'avais suivi. Mais je te dis qu'en 2016, je sais plus si ça passait déjà. J'avais dû écouter RFJ certainement, ou parce que je pense pas que c'était télévisé à l'époque. J'ai dû suivre. Je me souviens que mon beau-père nous envoyait aussi des messages sur ce qui se passait ici dans tout le Jura, parce que c'était la folie dans tout le Jura à l'époque. Parce qu'on est dans cette région, c'est qu'on vit à 200% dans ces moments-là. Et puis. Je crois qu'il y a tous les fans qui étaient à fond derrière le
HCHOA qui gagne donc 4-2. Un but pour Phil DeVos, 3 pour Steven Barras. Alors avant de vous réentendre les deux sur ce match-là, disons après, on va quand même vous faire écouter ce que vous aviez dit à la fin de ce match-là. Joe d'abord et ensuite Steven.
Ah, oh, je suis brûlé. C'est magnifique, regardez ça. C'est la classe, puis on l'a mérité en plus. On peut rêver de mieux, c'est magnifique. Il n'y a pas autre mot. Yes!
On a un groupe qui mérite tellement, on a fait des playoffs d'une qualité exceptionnelle. À domicile, on a été fantastique. Un souvenir qui partira jamais.
Et Steven, 3 goals ce soir. Hat-trick lors du dernier match de ta carrière.
Ça va être le destin, ça.
10 ans après, tu dis la même chose, Steven. C'était le destin, cette fin comme ça.
Ouais, certainement. Moi, j'étais juste en fait content de jouer, hein, parce que bah voilà, si on refait l'historique depuis la blessure contre Holton, j'ai raté les 3 ou 4 premiers matchs de la série, je sais plus exactement.
3
premiers matchs de la série contre Rapperswil. Et puis en fait, moi j'avais juste envie de jouer, mais faut s'imaginer quand je suis en face de la doctoresse qui s'occupait de mon cas, quand je vais la voir puis que je lui dis mais écoutez, moi la seule question c'est quand c'est que je peux remettre les patins, c'est ça la discussion, parce que les médecins ils sont pas du tout alignés là-dessus. Pour elle, j'avais fini la saison, c'était indiscutable. J'ai dit non, on trouve une solution pour que je puisse jouer, comment on fait? Puis ben on trouve une solution, absolument contre le fait que je joue, mais voilà, tout se remet plus ou moins. Je repars de l'hôpital, je suis hyper mal pendant 2 jours, inexplicable pourquoi, personne ne savait. Et en fait, après l'opération, j'ai fait une sinusite aiguë, donc ils m'ont donné des antibiotiques, ce qui fait qu'en un jour, tout à coup, j'étais tout bien, et j'ai pu jouer. C'est genre le lendemain, hein. Donc on parle vraiment d'un délai très très court. Donc j'étais juste content de jouer, moi, ces matchs-là. Puis en plus de ça, alors le dernier match, les 3 buts, ça c'est... J'ai fait des centaines de matchs, mettre 3 buts, c'est déjà pas souvent. En plus, le dernier match d'une série où on gagne, où j'arrête le hockey, voilà, les étoiles se sont alignées, super, bravo à moi. Mais voilà, ça c'est le côté individuel. Comme j'ai dit dans l'interview d'après-match, où j'avais encore la tête un peu sur les épaules, sans le groupe, c'était impossible tout ça. On était vraiment, je pense, un groupe cette année-là, fait pour aller au bout. Et puis tout le puzzle, tout s'est mis en place. Ça nous a permis d'arriver à ça, puis d'arriver à ces résultats.
C'est un petit peu ce que dit aussi Jonathan Hazen pour expliquer pourquoi et comment on a réussi.
Honnêtement, c'était la profondeur. On avait des jeunes talents, des Kumar, un Mada qui faisait la job, troisième ligne défensivement, piqué. Après ça, on avait un bon gardien des clous qui était jeune aussi. On avait tout, on avait beaucoup de jeunes. Même les étrangers, on était jeunes dans le bon vieux temps. Alors, c'était bien.
Et puis, c'était aussi pour vous l'intégration parfaite. On a envie de dire, vous venez d'arriver en Suisse, ce titre, vous étiez adoubé par tout un peuple. On vous en parle aujourd'hui encore? Il s'est passé beaucoup de choses entre temps aussi. Hein.
Exactement. Et puis, tu sais, c'est peut-être, je me répète, mais je dis toujours la même chose, c'est le titre qui nous a lancé, mais c'est peut-être le moins gros des 3, en guillemets. On en parle un peu moins, mais c'était vraiment incroyable. Et puis, c'est comme je dis, c'est gravé. Et puis, à chaque fois qu'on en reparle, on a le sourire aux lèvres.
Johnny, ça a aidé, entre guillemets, d'arriver à Porrentruy, d'amener le club au sommet. Concrètement, ça a été bénéfique pour ton intégration, celle de ta famille peut-être aussi?
Oui, puis non, honnêtement, je suis venu ici, je m'attendais vraiment pas à ça qu'on gagne, surtout que l'année d'avant, il avait fini, je crois, 8e sur la peau des fesses, vous avez fait les série. Je suis venu ici pour avoir du plaisir, relancer ma carrière aussi. Ça a fait que, comme tu dis, oui, ça m'a sûrement aidé à rester ici. Ça fait déjà plusieurs années. Alors, non, c'était inattendu comme titre, je trouve.
C'est un adjectif, disons, après, qu'on confirme, en fait, inattendu. Joe?
Tout à fait, oui. Oui, oui. Si on reprend le déroulement de la saison, si je me souviens bien, donc on avait accueilli Hazen et DeVos, qui était en guillemets censé remplacer Roy Desmarais, qui était parti 2 ans avant. On a eu, comme Steven l'a mentionné, une période de battement très compliquée d'une ou deux saisons. On n'avait pas fait les playoffs, on était 9 au classement, on avait fini 9e. Puis cette année-là, ils arrivent, ça se passe plus ou moins bien, si je me souviens bien. Au mois de novembre, le comité directeur hésitait encore à re-signer Hazen et DeVos, si je me souviens bien, à cette époque-là. Finalement, ils avaient signé, je crois, au mois de décembre, et puis ça les avait boostés, au fait, et puis ils avaient fait des saisons incroyables, quoi. Plus des playoffs qui étaient... ils dominaient cette ligue largement, donc il y a vraiment tout qui s'était enchaîné pour qu'on gagne ce titre, quoi.
Cette saison-là, DeVos, 63 matchs, 95 points, et puis Hazen, 62 matchs, 90 points. Folie, hein.
C'est une belle arrivée en Suisse pour deux Canadiens et ça leur permet de voir un peu plus loin dans le championnat où ils arrivent. Après, pour revenir sur le côté plus hockeyistique, on a eu toute la saison où on avait un groupe qui était bien, mais avec beaucoup d'arrivées de départ, de licence B, je ne sais plus combien de licences on avait fait cette année-là. Puis c'est vrai, quand on est arrivé dans la fin de saison, puis les playoffs, On a eu par exemple un Busser qui est arrivé d'une autre équipe, je ne sais plus de...
Ball, possible, Ball
Winterthur.
Winterthur, je crois bien que Yann, t'as raison.
Ouais. Pour Yann.
Avec Steiger.
Ouais. Steiger, ouais.
C'est juste. Et puis, lui en défense, il y a Kevin Fay qui est venu avec nous aussi. Ça a changé l'équipe parce que ça a pu amener de la qualité technique et de la propreté dans nos sorties parce que ça amène de la profondeur, tout simplement. C'est-à-dire que la qualité, on avait dans plusieurs lignes. Du coup, on se faisait beaucoup moins dominer que pendant la saison. On arrivait toujours à sortir de la zone, on arrivait à créer de l'offensive. Et puis voilà, comme l'a dit aussi Johnny, on avait de la profondeur. Moi, c'est la meilleure équipe avec laquelle j'ai jamais joué toute ma vie au HCA. Ça, c'est clair et net. Cette équipe-là, en play-off surtout, la deuxième partie de saison, c'est l'équipe où on avait le plus de profondeur, où on n'était pas, à faire dans notre pantalon parce que c'était la troisième ligne sur la glace. Moi, j'ai connu ça trop longtemps au HCA. Hein. Donc là, on était vraiment... profond, confiant, super groupe. Donc ça, c'était vraiment ce qui a permis d'aller au bout.
45 joueurs utilisés au total sur cette saison-là, entre le premier et le dernier match. Ça fait quand même effectivement un bon petit paquet. Hein.
En effet, après, c'était le jeu des licences B. C'était entre guillemets légal, donc on n'avait pas trop le choix. Tout le monde le faisait à l'époque. Hein. On se rappelle bien de Genève et Lausanne, ce qui s'était passé contre nous aussi quand on menait 3-1 dans les séries. Donc c'était le jeu, quoi. Mais... c'est vrai qu'on était dominant dans beaucoup de phases de jeu. On avait un power play qui était à 25 ou 30%. C'était incroyable, quoi. Tout fonctionnait.
Alors, on va gentiment passer aux étoiles et puis au quiz, la suite de l'émission. Juste avant, vous retrouvez une image. Il faut sortir une seule image. Alors, on vous laisse quelques secondes à vous deux, parce que les Québécois l'ont fait aussi.
Moi, j'ai une magnifique photo... où est-ce qu'on a gagné, j'arrive pas à le croire, puis j'ai les bras un peu comme un ange qui regarde au ciel, puis pendant ce temps-là, il y a tout le monde qui verse du champagne, puis sur la photo, on voit le champagne comme qui coule sur moi, puis je regarde vers le ciel. Je me suis promis qu'un jour, j'appellerai un peintre pour qu'il la peigne, puis que je la garde dans mon salon. C'était vraiment la consécration.
C'est pas Denis?
Bonne question. Moi, honnêtement, je vois juste la face à Barras avec sa grille, puis la bouche et tout. Moi, j'ai pas vraiment de... Après ça, quand on lève les gants et tout, ouais. On se souvient, on a des petits flashs, mais la grosse palette à fil devant le but aussi, rapide, ça je mentionnerai tout le temps, c'est trop drôle.
La face à Barras derrière sa grille.
C'est bien une réponse à Johnny, ça. Ouais. Non, moi l'image que je garde, c'est la photo que j'ai avec mon grand-père dans le vestiaire et puis la coupe. Ça, c'est clairement la photo qui me reste que j'ai. Puis que c'est de ça que je me souviens. Puis après, les autres flashs, c'est le monde sur la glace. Ça, c'était incroyable. Mais s'il y en a une à garder, c'est ça.
Joe?
Moi, j'ai une photo avec mon père aussi, qui, avec la coupe, hein, évidemment. Et puis, je trouvais ça magnifique parce que lui, n'en revenait pas non plus. Hein. On n'a jamais été préparé à ça. Moi, je sais un joueur avant 2000 et quelques. Quoi, je veux dire, c'était quelque chose de vraiment inattendu. Mais j'ai tellement de bons souvenirs de cette finale. J'ai, Je pourrais vous en énumérer des dizaines et des dizaines, quoi, mais il y en a une que je retiens particulièrement quand même, mais ça c'est en joueur, où on était avec la face à Barras, justement, qui est un peu tordue, hein, évidemment, puis Miguel Orlando, puis on demandait à Thibaut Frossard, qui était à cette époque des plus jeunes, qu'on avait pris un peu sous notre aile pour l'aider à s'intégrer dans l'équipe, et puis il n'arrivait pas à faire cette photo, justement. Et puis j'ai cette image en tête où on est avec, il y a Steven, Miguel Orlando et moi qui le regardons avec des yeux avec des fusils dans les yeux parce que ce pauvre n'arrivait pas à faire une photo, puis je trouvais ça magnifique, quoi.
Au niveau des images, Yann Voya, une idée ?
Le planteur au bord de la plage.
Non, moi, j'ai connu justement cette ancienne patinoire, puis de la voir remplie, la cabane remplie et débordante de monde, c'est cette image. Puis comme disait Steven, après, les gens qui envahissent la glace, c'est toujours des moments juste incroyables, je trouve, dans le sport.
Ouais, moi aussi, c'est la période après la défaite, je crois que ça doit être le 28 mars à Rapperswil, ces jours qui ont précédé ce match 6 et les jours qu'on suivit aussi, c'était vraiment une ajoie mania, quoi. Voilà, avec le grand tifo de Steven aussi qui était un petit peu affiché
à
différents endroits,
au château,
me semble-t-il. Ouais. Ouais, c'était vraiment, c'est presque un élément fondateur de ce qui va suivre derrière aussi au niveau de la popularité et des émotions données par ce HCA, et puis aussi ces fans là qui étaient, mais c'était vraiment de la folie, c'est-à-dire les gens pour acheter les billets aussi, il y avait 4200 places de la patinoire, c'était des heures de queue me semble-t-il, hein, pour pouvoir rentrer dans la patinoire, c'était vraiment ces moments de folie où tout le Jura ne parlait que du HCA.
4h30 du matin au lundi pour aller chercher des places, voilà. c'était fou, hein.
Ouais, c'est ça aussi que j'allais dire, c'est ces files d'attente, et puis aussi sur la route en rentrant, en allant à Rapi, les coups de klaxon voiture RFJ, ou quand on se déplaçait à côté du car aussi, de temps en temps, les gens klaxonnaient. Enfin voilà, c'était vraiment, comme tu dis, une joie mania, puis des moments vraiment incroyables du sport jurassien.
Alors moi, je vais conclure avec l'image du match 4 que j'ai suivi en partie sur les fameux triangles rouges qu'on prend pour les gamins qui vont sur la glace là, parce qu'en fait il y avait plus de place nulle part, et si tu voulais un petit peu essayer de voir, tu trouvais n'importe quoi pour essayer de monter, une table, une chaise, et moi j'étais sur ces triangles rouges qui devaient pas avoir beaucoup tenu d'ailleurs sur l'ensemble du match, pour pouvoir essayer de voir un petit peu ce qui se passait sur la glace. Et on était évidemment de nombreux à vivre comme ça. Je pense que tout le monde a une image de comment c'était dans la patinoire à ce moment-là.
La bande du jeudi. La bande du jeudi.
Ben voilà, mon tour de donner les étoiles 10 ans après, là, cette séquence flashback. Tu veux que je donne des étoiles à Onca, c'est ça, Yann?
C'est l'habitude qu'on a ici, la bande du jeudi. Normalement, 3 étoiles, c'est Anthony Onca.
Ouais, mais si on avait eu Onca, il y avait seulement 2 places à l'époque, hein, pour les étrangers. On aurait quand même gardé De Vos et Johnny, j'imagine.
Mais on avait Joe Auer derrière.
Voilà. Non.
On n'est pas besoin d'Onca.
Ben voilà, quoi, on va distribuer les étoiles, et puis je vais évidemment commencer à donner 3 étoiles au numéro 10 de l'époque, là, voilà, il y a 10 ans, là, je crois, des déchets là, j'ai une pensée pour lui en ce moment, et toute son équipe avait imaginé un t-shirt à ta gloire, Steven, le fameux t-shirt. Aujourd'hui encore, ma fille de 16 ans le porte comme pyjama, tu vois, donc, régulièrement, j'ai encore ces moments qui sont là, à la maison, voilà, t'as marqué ton mène d'époque, et voilà, t'as surtout marqué ce dernier match, voilà, dit, ces 3 buts, voilà, qui te donnent aujourd'hui, 10 ans après, 3 étoiles, voilà, magnifique, là.
Magnifique.
Et puis, ben voilà, moi, ce qui m'impressionnait sur ce dernier match, c'est, on sait les circonstances dans lesquelles tu l'as disputé, c'est comme cette coulitude que tu dégageais sur la glace, voilà, quelque part, t'as aussi réussi à te réinventer au fil de ta carrière et de ces dernières années avec chaque fois des nouveaux joueurs à tes côtés, voilà, quoi, ben, chapeau encore pour ces moments-là.
Merci beaucoup.
Et je pense qu'à l'époque, le titre du QJ, c'était « Merci pour ce moment », me semble-t-il.
Exactement, le titre de l'article, c'était « Merci pour ce moment », et puis le titre de la une, c'était la une complète avec Joe Howard qui soulève la coupe, et c'était un jeu de mots qui s'appelait tout simplement « La joie ».
La joie, ouh. On commente Steven ou on continue avec les 2 étoiles? Ah, et alors c'est Cyprien qui nous montre la une de l'époque, un grand collectionneur d'archives, là.
Elle est superbe, ouais.
Il faudra vraiment qu'on filme, hein, la bande du jeudi, pour que les gens puissent voir.
Qu'on voit les documents.
Hein. La joie en 2 mots, donc. Hein.
Et après, en 2000, si on veut poursuivre celui du QJ, en 2020, la coupe, c'était le Graal, et en 2021, la promotion, c'était l'élite, me semble-t-il. Bon, deux étoiles, ben voilà, rappelez-vous, il y a 10 ans, le gardien qui a permis au HC Ajoie de soulever ce trophée n'avait que 19 ans. Voilà, moi je lui donne les deux étoiles pour l'ensemble de son œuvre. 18 matchs de play-off, 18 titularisations à l'époque, avec des séquences de série où son taux d'arrêt affolait les statistiques. Il y avait parfois des 94-95% sur quelques matchs. Il a été remplacé deux fois par le numéro 2. Vous vous rappeliez du gardien qui était là pour le suppléer à l'époque ?
Sacha Rochauffe. Exactement, oui.
Voilà, donc Gauthier Descloux, il est venu au HCA pour gagner du temps de jeu. Il a gagné un état de confiance surréaliste, comme si rien ne pouvait l'atteindre. Je l'ai eu au téléphone il y a quelques jours, et puis il m'a confié que c'était au HCA Ajoie qu'il avait connu le meilleur moment de sa carrière en termes de plaisir de jouer. Voilà, il était vraiment au top de sa confiance, et pour un gardien, ben voilà, qu'on est au sommet de sa confiance, ben on sait ce que ça peut donner.
Ouais, bah tu l'as dit, hein, un gardien, c'est essentiel dans une série. Puis pour gagner des playoffs, Ajoie à la veste cette année-là avec Gauthier Descloux. Cyprien nous a dit avant qu'il y avait 44 joueurs. Moi, j'ai compté 44 joueurs qui ont porté le maillot du HC Ajoie. Mais il y a eu 6 gardiens aussi au HC Ajoie cette année-là. Donc, ceux qui se plaignent qu'il y a trop de gardiens au HC Ajoie maintenant, en 2016, il y avait déjà 6 gardiens. On avait Descloux, Pau, Prochoff. Il y avait Sébastien Pitet qui avait fait deux matchs, et puis Nicolas Seuret et Tom Kramat qui avaient fait la porte, mais qui n'étaient pas entrés. Donc on avait 6 gardiens cette année-là.
Je vais rajouter une statistique, parce que sur les 9 matchs de play-off disputés à domicile, le HC Ajoie avait concédé combien de buts, Joe, tu te souviens? 9. 9 buts en 9 matchs. Un but par match à domicile. C'est une statistique de malade. Hein.
Parce que les attaquants défendaient bien, à mon avis.
C'est une question du quiz, ça. Est-ce que Steven Barras a une fois croisé Jordan Howard sur la glace? C'est peut-être si une fois Jordan était pour checker au fond, parce que Steven, il venait rarement dans la zone.
Non, c'est pas pour prendre sa défense, mais je dois quand même avouer que sa façon de jouer a changé sur ces dernières années de... Donc, je me demande si j'ai peut-être même pas vu bloquer un shoot ces dernières saisons. Donc
J'ai pas réussi à l'éviter.
Bon, puis je fais du basique et du classique, on l'a déjà dit et redit aussi ici, l'étoile, c'est pour le duo de Québécois, là, Johnny DeVos, c'était leur première saison, on l'a dit aussi, et bien en play-off, moi j'ai aussi égrené les statistiques, Johnny c'est 29 points en play-off et DeVos c'est 24, là, vous rendez compte, on parle ici d'un exploit d'il y a 10 ans, et nos Québécois sont toujours là à défendre le maillot du HC Ajoie, voilà, c'est le début d'une histoire pour le club, c'est aussi le début d'une histoire pour eux, et puis on sait à quel point c'est important d'avoir des mercenaires à ce niveau en Swiss League. À l'époque, c'était la Ligue B, hein, c'est ça, hein, ouais, c'était la Ligue B à l'époque. Voilà, puis voilà, ils sont arrivés, comme Gary Sheehan, qu'on n'a pas aussi pas assez mentionné à mon avis pour l'instant, comme Gary Sheehan, ils sont arrivés ici en amenant une culture de la victoire, voilà, et puis une vista, voilà, quoi, ils sont identifiés au club et à la région, chapeau à eux.
Ouais, c'est vrai que j'allais aussi parler de Gary après coup, parce que c'est vrai que les étoiles, d'habitude, on les donne toujours aux joueurs, mais Gary a fait un boulot de titan aussi pour moi avec ce HC, avec Vincent aussi. Culture de la gagne, gestion du groupe, d'un large groupe en plus. Je pense que si l'ambiance était telle, c'était aussi en bonne partie grâce à eux. Ils ont su faire marcher la confiance dans le bon sens du terme. Je pense qu'on leur doit aussi une fière chandelle. Et puis, ouais, évidemment, que dire de ce duo? Je pense que les chiffres dépassent tous les mots qu'on peut poser dessus.
Ouais, puis on peut oublier aussi que c'est une victoire, voilà, d'une équipe. Il y avait tellement d'autres joueurs aussi décisifs, hein. Je pense à Miguel Orlando, bah Jordan évidemment, Dario Coumer, Stéphane Médère, Anthony Rouillet. C'était cette génération-là, hein.
Ouais, vraiment. Et puis c'est vrai que pour remonter sur le groupe et puis sur le coaching staff aussi, il faut s'imaginer, ils faisaient les deux un boulot gigantesque de préparation. On était vraiment bien préparé pour les matchs. Très professionnel. Et puis on a su, parce que ben voilà, 44 joueurs qui viennent dans un vestiaire, finalement c'est pas évident de monter un groupe, puis de réussir à finir la saison avec un groupe comme on était. C'est un peu un miracle dans un sens, mais c'est qu'aussi il a réussi à mettre ça ensemble pour qu'on y arrive. Donc ça a été vraiment quelque chose. Il faut s'imaginer aussi qu'on avait en gros une personne qui faisait l'aiguisage des patins, le matériel, le massage. Qu'est-ce qu'il faisait Bernard Lechon, il faisait à peu près tout. S'il y a un problème, n'importe quoi, c'était Bernard dans le vestiaire. Bernard, c'était tout le temps. Puis on avait une ou deux personnes qui venaient faire des massages à côté aussi, c'est clair, mais c'était quand même promoteur, quoi, on va dire.
Et puis ils avaient une bonne complémentarité entre Gary qui ne pouvait pas perdre un match et Vincent qui était quand même un peu plus relax, puisqu'ils avaient une bonne complémentarité entre les deux. Je me souviens d'un match à Winterthur qu'on avait perdu. Bah, je peux vous dire qu'on avait compris qu'il ne fallait plus perdre à Winterthur. Et puis, D'un côté, on avait cette culture de la gagne, et puis de l'autre, on avait aussi Vincent qui était un peu là pour un petit peu apaiser les choses. Donc ça faisait aussi que, voilà, que toutes les relations se passaient relativement bien.
Il n'aimait pas perdre, Gary ?
Pas dans mon souvenir, en tout cas.
Oui, ben ça, c'est le plus important dans un sport. Il ne faut surtout pas aimer perdre, hein, parce que sinon, on n'y arrive pas.
Et certainement que si l'OHCR ne gagne, n'avait pas gagné en 2016, peut-être que la suite n'aurait pas été écrite comme cela. C'est, on l'a dit avant, c'est vraiment un acte fondateur de ce qu'on a vécu ces années suivantes, quoi, ce moment-là.
Je pense que ça a changé aussi, je suis assez d'accord. Après, il s'est passé du temps jusqu'à la Coupe Suisse quand même, hein, mais je pense que fondamentalement, ça a changé l'approche du club dans cette ligue par rapport à quand on y est arrivé en 2000, hein. Parce qu'on a quand même eu, voilà, 17 ans où on était moyen à mauvais dans la Ligue. Même si une année, on a fini premier, Yann Tlacil, du championnat. Mais de base, on était quand même une équipe moyen à mauvaise. Et puis là, ben, on a réussi à inverser ça. Puis ça, je pense que c'est quand même resté. Et puis après, ça a permis de soulever des montagnes. Et puis de... Enfin, voilà, vous ferez des émissions pour les 10 ans de la Coupe Suisse.
Dans l'œil de la Vouivre.
J'ai la voix royale pour continuer et puis terminer cette émission spéciale 10 ans du titre 2016 avec le quiz. J'avais préparé pas mal de questions, j'ai bien fait. Des fois j'en oublie, là j'en avais fait plus que prévu parce que je me doutais bien qu'on allait parler de beaucoup de choses durant cette puis d'être complet, que les journalistes qu'on a qui sont très professionnels. Donc, il me reste quelques questions. La première des questions que je vais vous poser, elle est au sujet de la première série, finalement, que Chaudefond. Je vais vous demander qui étaient les étrangers de Chaudefond durant ces playoffs.
Forget.
Valran.
Bien joué.
Ah, mais il joue aussi, eux.
Ouais, joue aussi.
Non,
ouais.
Non, moi je suis au taquet.
Je vous rappelle les règles, messieurs. Alors, on laisse une longueur d'avance aux invités. Hein,
pose le micro sinon.
Non, normalement on vous laisse une longueur d'avance. Mais effectivement, il y a Marc-Olivier Valran, un buteur incroyable qui avait été engagé en janvier par Chaudefond, qui a joué deux matchs de play-off, hein, et marqué deux buts. Et puis il y avait Dominique Forget, mais on a oublié un autre qui a joué encore quatre matchs pendant cette série.
Je l'ai, mais je laisse les deux.
Je me rappelle qu'il était droitier, qu'il était grand, puis que c'était un mauvais joueur. Je déteste ça.
Il a la même nationalité que Pierre-Édouard Bellemare.
Ouais. Il se prénomme Laurent, je crois.
Ouais, c'est juste.
Ah, c'était Laurent Meunier.
Meunier.
Ah. Ouais, effectivement, ouais, Meunier. Il y a Laurent Meunier. Et puis durant la saison, ils avaient aussi Benoît Mondou, mais qui a fait juste 5 matchs dans la saison. Donc voilà pour la première question. Deuxième question, lors de ces playoffs, on va passer à la deuxième série, c'est contre Holton. Il y a un joueur actuel du HC Ajoie qui jouait cette série avec Holton. Est-ce que vous vous souvenez contre qui vous avez joué contre Holton qui joue maintenant au HC Ajoie ? Il était prêté par une équipe de National League.
Un Canado-Suisse.
Non, une équipe tessinoise qui l'avait prêté à Holton.
Il vient du Tessin d'ailleurs aussi.
Romanenghi ?
Bien joué, Joe. C'est Matteo Romanenghi qui jouait avec Holton pendant cette série. Il y avait aussi un autre ajout-là qui est passé par le HC Ajoie. Il y avait Oli Hubert aussi qui jouait. Et puis il y a un arbitre actuel aussi qui jouait à Holton cette série, hein, qu'on n'aime pas au HC Ajoie, ou qui lui n'aime pas le HC Ajoie quand il vient.
Moi j'aurais plutôt qu'il n'aime pas le HC Ajoie, mais ça n'engage que moi. Mais...
Ouais,
je ne sais pas qui c'est.
C'est Stéphane Hurliman.
Ah, okay. Ah oui, ok.
Ex-rappeur Suisse et puis qui était à Holton durant cette série. Petite question facile, elle est rapide. À quelle heure le HC Ajoie est devenu champion suisse?
Moi, j'ose.
Ouais.
Non, mais 22-24.
Non.
22-16.
Plus près déjà.
22-10.
On se rapproche.
22-6.
Ah, presque, 22h07, le duo Kiki Crétin et Raphaël Chalvera annonçait la victoire du HC Ajoie sur les ondes de RFJ. Aussi une question un peu plutôt rigolote, on va dire. On a parlé du Mikou avant, hein, qui était le chauffeur du HC Ajoie durant ces séries. Il a été interviewé après le titre. Qu'est-ce qu'il souhaitait après ce titre au HC Ajoie?
Je sais, j'ai la réponse.
Chanter?
Non, ça il a certainement chanté, ça c'est clair.
La Liga?
Même pas encore.
Enfin, moi, je peux le dire ou pas?
Ouais, vas-y.
Il voulait faire péter la patinoire.
Exactement, il souhaitait une bombe dans la patinoire pour qu'on puisse en reconstruire une nouvelle.
Il nous manquait plus que ça.
Qu'est-ce que ça
champion, il faudrait que maintenant qu'il y ait une bombe, puis que la patinoire tombe, qu'on puisse faire une nouvelle.
comprends ? Une nouvelle comme ça, une grosse pétée, toi.
C'est visionnaire, ça.
Mais comme on disait avant, bah, finalement, c'est vrai que ce titre a peut-être aussi lancé. Bah, c'était aussi l'époque où il y avait le projet de Noël Patinoire et il manquait 5 millions pour pouvoir ficeler le projet. Puis peut-être que ce titre aussi a grandement aidé à aller chercher des autres titres après, puis à construire cette nouvelle patinoire, puis avoir le HAJ National League qu'on a maintenant.
Ouais, c'est évident pour moi que ce titre il a permis de faire les infrastructures qu'on a aujourd'hui. Ça a été un coup de boost énorme pour le hockey dans la région, et puis ça a forcément favorisé en tout cas l'étape votation et puis tout ce qui s'est passé pour pouvoir faire cette patinoire. Et ensuite, ensuite ça a continué pour le club comme ça, donc tant mieux.
Petite question encore, le duo HD à Zundervo, ça finit premier, deuxième des compteurs cette année-là. Mais en quelle place a fini Stébardis, Steven Barras, a fini en quelle place des compteurs de la saison régulière,
tu te souviens? Championnat.
Ouais.
Comment tu l'appelais, Stébardis?
Ouais.
Ah, tu m'apprends quelque chose. Stébardis.
Stébardis.
Ok.
Il faut voir son adresse mail pour ça.
À peu près. Je sais plus si j'étais blessé ou pas pendant la saison. 7e, 12.
Ouais.
4.
5.
Ah, il a fini 11e de la Ligue. Il était 2e Suisse, si je ne me trompe pas. Non, 3e, il y a Kuhnen et puis un qui a fait longtemps à Langenthal.
Shannon.
Lève la tête, Shannon, comme dirait notre ami Froidevaux. Dernière question pour vous. Qui étaient les meilleurs supporters du HAJ durant cette finale
Les Voya.
On peut pas vraiment dire que c'était nous, non. Non, c'est un club qui n'est pas souvent fan.
Ah, le HC Bienne.
Mais bien sûr.
Ah, oui, on aurait dit, c'est juste.
Ah, oui, oui,
parce
oui.
que le HAJ, on ne peut pas oublier, a sauvé le HC Bienne d'un barrage de la peur contre éventuellement par Rapperswil. D'ailleurs, à l'époque, Gary avait remercié le HC Bienne pour la collaboration. Le HC Bienne avait rappelé que la collaboration marchait super bien avec le HAJ. Puis on avait justement des joueurs comme Rouillet, Fay, Oranski, qui avait été prêté.
Kevin Fay qui a joué un match, c'était le dernier. C'était celui-là, oui, oui. Ah, oui, oui.
Et puis, on va arriver à la question. La semaine dernière, d'ailleurs, le Rafi spécial K, j'avais marqué, nous posait une question sur notre invité, Phil Michael DeVos. Il demandait sa position des compteurs dans l'histoire du club. Puis la réponse était
premier, en tête.
Puis t'avais bien aidé les auditeurs en donnant
le nom du deuxième, c'est ça.
Le nom du deuxième qui était
un certain Steven Barras.
Puis qui est toujours.
Voilà.
Deuxième meilleur compteur du HAJ de l'histoire, devancé cette année par Phil Michael DeVos, effectivement. Le gagnant qui va recevoir le cadeau de la bande du jeudi, c'est un certain Patrick de Fontenay.
Et il sait jouer le suspense, là. Hein,
ouais, parce que...
Comment de tambour.
C'est tellement bien. On m'a piqué mon cadeau. Quand je suis arrivé ici, on m'a donné aussi le cadeau de la bande du jeudi. Et puis, ma fille me l'a piqué tellement il est bien. Donc, Patrick, tu vas recevoir ce cadeau tout prochainement. Et puis, on va vous poser une question à vous, les auditeurs. À combien de reprises le HAJ a été champion de Ligue nationale B? Donc, on attend vos réponses directement sur la page consacrée à la bande du jeudi. Sur le site internet de RFJ, vous trouverez le formulaire réponse. Vous pouvez envoyer un mail à bdj@lqj.ch. Là aussi, avec la réponse et vos coordonnées.
Bien, merci, Yann. C'est déjà tantôt l'heure de nous quitter. Avant ça, on a une petite surprise pour vous deux, messieurs. C'est le petit mot de la fin de nos deux Québécois qui ont tenu à vous faire passer un petit message. Je vous propose qu'on les écoute.
Ben, moi, je dirais à Jordan que j'adore le nom de son chien. Et puis... Pourquoi tu ris, Joe? Et puis, je dirais à Steven qu'il regarde ses emails parce que j'attends des réponses. Donc, voilà.
Mais ça s'est passé.
C'est bon, ça!
Et toi, Johnny?
Ah, on se voit dimanche, Jojo. Puis, Steven, je te texte quand j'ai besoin de quelque chose à BCJ.
T'as pas d'email pendant, toi?
Non, je suis correct, ça va bien.
Voilà, messieurs, à votre tour de donner peut-être de laisser un petit mot à ces deux oiseaux.
On veut quand même savoir le nom du chien, hein?
Mais je pense que je préférerais en parler au radio si ça vous embête pas. Il n'y a pas beaucoup qui comprendraient ici, je pense, à part éventuellement Yann. Donc je préfère pas en parler à la radio.
Et si vous aviez un petit mot, vous deux, aux deux Québécois?
Moi, je commence, changez rien. Moi, je trouve qu'ils se sont battus comme des fous cette année encore. Et puis, c'est toujours un bonheur de les entendre ici. Ça a toujours été deux gars positifs et tout. Donc, moi, je les aime beaucoup. J'ai joué qu'une année avec eux, finalement, mais on s'est toujours très bien entendu, même les années qu'on suivit. Donc, voilà. Bonne chance pour la fin de saison, surtout.
Moi, je les féliciterai pour leur magnifique carrière et tout ce qu'ils nous ont apporté, autant humainement, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y en a un des deux qui est quand même assez drôle, il va se retrouver facilement. Et puis, j'aimerais dire à Phil, merci pour les nouvelles.
Merci beaucoup à vous, messieurs, à vous tous d'ailleurs, messieurs, d'avoir participé à cette très belle émission, que de souvenirs hein, ressassés en une petite heure. Belle soirée à tout le monde et merci encore.
Bye bye. Merci.
Merci, bonne soirée.
Salut.
Et quant à nous, on se retrouve dans une semaine, déjà jeudi prochain. Ce sera cette fois-ci pour décrypter l'actualité du HC Ajoie qui aura disputé ses deux premiers matchs de play-out contre Ambry. À bientôt.